UMCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Nous arrivons à la fin de notre semaine où nous avons découvert, en tout cas on va découvrir notre troisième femme de réveil, mais nous aurons découvert trois femmes de réveil, trois femmes au destin exceptionnel qui avaient toutes un point en commun. Dieu. Elles avaient un seul point en commun, c'était leur foi et leur détermination à se laisser être utilisées comme Dieu le voulait. Et cette semaine, on a parlé donc de Maria Woodworth Ether. Wouh ! Bravo, ah, Annabelle. Ouais, hein. Et puis, de la sœur Aimée Semple McPherson. Et aujourd'hui, nous terminons avec Catherine Kuhlmann. Alors, simple, hein. Je travaillais dur pour ça. Et nous sommes avec Franck Alexandre. C'est bon, je l'ai.
Ah, tu t'es pas trompé, c'est bon.
Je suis pas trompée. Et enfin, Franck, vraiment merci d'avoir été avec nous cette semaine.
Une joie, un plaisir.
D'avoir pris le temps de faire toutes ces recherches, d'avoir étudié, d'avoir collecté des informations et de nous le partager à nous qui n'avons pas lu tous les livres qu'il a lus. On lui dit merci d'avoir condensé des vies entières en l'espace de quelques minutes. Ouais, ouais, tu fais ça bien, franchement. Et comme je vous l'ai dit, encouragez Franck à continuer à raconter des histoires. Si vous voulez plus d'histoires de Franck, dites-lui en commentaire. Franck, nous voulons plus d'histoires. Wouh! Il n'y a pas le son dans les commentaires,
quand même,
mais...
Hein, qui passe oui. EMC Revivaliste, que Franck anime. Et on aura aussi Gospel Vision sur EMCI. Bientôt.
Ouais, mais dans ton émission, tu enseignes souvent beaucoup.
Ouais.
Tu racontes un peu d'histoire, mais pas tant que ça.
Non.
Moi, j'ai bien aimé que tu racontes beaucoup d'histoire.
Et là, c'est des bios, c'est intense.
Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment bien.
Biographie.
Tu fais ça bien. Puis je pense que tu leur... tu le fais avec... Bah avec classe, avec respect pour elles aussi.
Bon, on veut honorer leur mémoire.
Voilà, exactement.
Et en même temps, encourager toutes les femmes qui nous regardent et qui aspirent aussi à servir le Seigneur. Parce que ce sont des femmes qui sont de véritables sources d'inspiration.
Exactement, c'est ça. Et on voit que ça ne date pas, pas d'hier en plus. Et on va en découvrir donc notre dernière, Catherine Kuhlmann, qui est née aussi début des années 1900. Donc, vous voyez, elle ne date pas de la dernière pluie. Je ne dis pas qu'elle est vieille, mais bon. que... D'ailleurs, tu l'as connue, hein, Franck.
C'est ça. C'est ma troisième réincarnation. Merci Annabelle, on s'en souviendra.
Donc Franck, Catherine Kuhlmann, allons-y.
Alors, femme d'onction, parce que quand on pense au ministère de cette femme, immédiatement un mot nous vient à l'esprit, c'est l'onction du Saint-Esprit qu'il y avait sur elle. Et pour, obtenir cette onction et vivre l'onction dans son ministère, elle a payé lourdement aussi le prix. C'est une femme vraiment phénomène. Mm-hmm. On pourrait l'appeler la femme phénomène. Rarement, je dirais, un ministère charismatique aura eu un tel impact dans sa génération que celui de Catherine Kuhlmann. D'ailleurs, son parcours de vie nous parle, nous enseigne, son style aussi, sa façon d'exercer le ministère n'a laissé personne insensible. Elle a subjugué, tout en laissant planer aussi certaines controverses, mais surtout, elle a fait naître... l'aspiration chez des multitudes de voir la gloire de Dieu se manifester dans les réunions où l'évangile est proclamé. Parce que ces réunions étaient vraiment des rencontres de galvanisation. C'est vraiment des moments où les croyants étaient galvanisés par la puissance du ministère du Saint-Esprit et des ministères se sont levés pour aller prêcher l'évangile dans le monde. Et sa vie nous rappelle que la vie des plus grands ministères est loin d'être un long fleuve tranquille. Et leur vie est loin d'être lisse, mais elle est faite de haut, de bas, de sommets, mais aussi parfois de sombres vallées, parce qu'elle a connu aussi de grandes souffrances. Mais dans ces souffrances, elle a appris à se rapprocher de Dieu. Mm-hmm. Je veux vraiment encourager ceux qui passent par des vallées. Parfois, on passe par la vallée des pleurs, hein, comme le déclare le psaume, dans la vallée de Baca. Mais le psaume déclare aussi que Dieu nous donne le pouvoir de transformer cette vallée des pleurs en un lieu plein de sources et des sources de bénédiction. Donc il ne faut jamais être désespéré quand on a le sentiment peut-être d'être mis au placard, d'être dans une situation où le ministère, on a le sentiment que notre ministère ne va pas émerger, qu'une œuvre qu'on voulait créer ne va pas voir le jour. Il est impérative de se tenir devant Dieu pour recevoir le conseil de Dieu. Et c'est ce qu'elle a chéri par-dessus tout. Je crois que les œuvres qui ont accompagné le ministère de Catherine Kuhlmann, et ces œuvres sont la preuve que Dieu se sert de qui il veut, et qui plus est, d'une femme. Dieu cherche un homme, c'est vrai dans la Bible. La Bible dit que Dieu cherche un homme, et pour être plus précis, je crois que Dieu cherche un vase. Mm-hmm. Que Dieu cherche un vase au travers duquel il va pouvoir agir, œuvrer. Elle a appris à être malléable entre les mains du Saint-Esprit. Elle a accepté d'être l'humble canal du Saint-Esprit, et c'est pourquoi l'onction du Saint-Esprit opérait au travers d'elle. La Bible nous dit que nous sommes des vases et que nous sommes des vases fragiles. Et la vie de Catherine Kuhlmann nous enseigne qu'elle a véritablement été un vase fragile. Il y avait sur ce vase des fêlures, il y avait des blessures, mais Dieu l'a restaurée, Dieu l'a embellie, Dieu l'a remplie. Et ce vase a été rempli d'une huile d'onction qui, à un moment bien précis de sa vie, a débordé, arrosant et guérissant des multitudes. Comme bon nombre des femmes dont nous avons parlé au cours de Paroles de Femmes, bon nombre de ces femmes se sont converties très jeunes. Et elle a eu l'occasion de se tourner vers le Seigneur à l'âge de 14 ans. Et elle a grandi dans l'atmosphère baptiste, méthodiste. Elle a grandi dans un milieu où la parole de Dieu était enseignée. Donc dans cette Amérique où les valeurs morales imprègnent fortement la société. Donc elle-même était imprégnée de ces valeurs morales, mais elle avait besoin de rencontrer personnellement le Seigneur. On peut évoluer dans le monde évangélique, protestant, et pour autant ne pas avoir fait l'expérience personnelle de la nouvelle naissance. Et elle l'a fait, elle a été consciente de son état de péché, de sa situation de séparation devant Dieu, à l'âge de 14 ans. Elle a donc demandé pardon pour ses péchés, elle a fait la paix avec Dieu, et ses péchés lui ont été pardonnés. Et très vite, elle va servir. Parce que non seulement elle est sauvée, mais elle a compris qu'elle est sauvée pour servir, pour accomplir quelque chose pour Dieu. Et s'il y a quelque chose dans son ministère qui est, je dirais, presque est une innovation, c'est le fait de travailler en équipe. Elle va prendre conscience de la nécessité de travailler en équipe. En 1923, elle est dans sa 16e année. Elle vient tout juste d'achever son cycle de scolarité au sein de l'école publique. Et de son côté, sa sœur Myrtle se marie avec un dénommé Everett Parrott, un missionnaire évangéliste. Donc, le couple insiste auprès de monsieur et madame Kuhlmann, donc les parents, ils insistent pour l'emmener avec eux, parce qu'ils ont vu chez Catherine ce feu, cette soif, ce désir de partager l'évangile dans sa génération. Alors, ils vont commencer à mettre sur pied des tournées d'évangélisation, et au cours des diverses réunions, la jeune adolescente donc commence à témoigner, et elle raconte comment elle a rencontré Jésus, comment ses péchés ont été pardonnés. Elle commence à parler devant un public, en fait. Elle est en train d'occuper la scène et de rendre témoignage. Et à l'issue de cette tournée, le couple Parrott place Catherine devant deux possibilités. Soit tu retournes chez les parents, ou alors tu restes avec nous. Et elle va faire le choix donc, de rester avec eux et de pouvoir les accompagner. Mais parce que le mari va lui faire une promesse, le mari de sa sœur. Donc va lui faire une promesse, il va lui dire, si tu nous accompagnes, voilà, je te laisserai prêcher l'évangile. Tu pourras prêcher l'évangile, tu pourras apporter l'évangile. Mais en fait, il ne va pas tenir la promesse. Mais elle va répondre à cet appel. Elle va les suivre, elle va les accompagner. Elle va demeurer pendant 5 ans avec ce jeune couple qui évolue en fait dans la puissance charismatique. C'est un couple assez atypique, là aussi, qui commence à vivre des choses sur le plan charismatique. Ils ont été influencés par un Canadien nommé Price, et c'est un homme qui prêchait ouvertement sur le baptême dans le Saint-Esprit et sur la guérison divine. Donc elle est en fait à bonne école avec sa sœur et son mari. Elle les écoute prêcher sur cette guérison, ce baptême dans le Saint-Esprit. Prêcher, c'est ce qui vraiment résonne dans le cœur. Voilà, c'est ce qui l'anime. Il faut que ça sorte, en fait. Il faut qu'un message retentisse. Il faut que le monde entende la bonne nouvelle. Elle est habitée par cet appel de prêcher la bonne nouvelle. Et en 1928, elle va pouvoir enfin saisir l'opportunité de prêcher le plein évangile à la suite d'une situation qui va empêcher Everett Parrott d'honorer une mission qu'il devait tenir dans la ville de Boise. Dès le début de la mission, sa sœur Catherine assure la prédication, mais rapidement, elle doit lui céder la place, elle doit partir pour rejoindre son mari. Ce qui fait que Catherine va rester en fait sur place. Elle va devoir assurer les réunions. Elle va être renforcée par une autre femme qui va assurer la partie musicale.
Il fait comme il veut, finalement.
Voilà, Dieu fait comme il veut. Lui, il n'a pas respecté la promesse, mais lui, Dieu va lui promettre qu'elle va prêcher l'évangile. Donc, Dieu est fidèle. Et Dieu ne se repent ni de ses dons, mm-hmm. ni de ses appels. Mm-hmm. Et il va l'amener en pleine lumière mm-hmm. pour apporter la parole de Dieu. Alors, à cette époque, les grands auditoires, les grandes salles, les méga-churches qui accueillent les évangélistes, ce n'est pas encore le temps. Hein, là, c'est l'époque de la multiplication d'églises par l'implantation d'églises mm-hmm. avec des femmes extrêmement courageuses qui, que ce soit au Canada ou que ce soit aux États-Unis, implantent des églises dans des conditions extrêmement difficiles, mm-hmm. dans des entrepôts, dans des lieux où il n'y a pas de chauffage, où les bancs sont faits avec des tonneaux sur lesquels on met des planches. Mm-hmm. Et elle, en 1933, donc Catherine Kuhlmann et sa collaboratrice se rendent à Pueblo, dans le Colorado, et là, ils vont y demeurer pendant 6 mois. Mm-hmm. C'est pas des missions week-end, JVSD, quoi. Hein, c'est... Ouais. Ah non, c'est 6 mois. T'es comme parachuté dans un endroit, t'es comme un commando, là, faut que tu implantes une église dans des conditions épouvantables, avec le climat, la météo, avec les paysans, les villageois qui viennent, et là, dans des granges, dans des entrepôts désaffectés, dans des hangars, elle prêche la parole, elle annonce l'évangile. C'est l'école à la dure, c'est l'école extrêmement difficile. C'est pas l'école des promesses d'un grand salaire, c'est pas l'école de la promesse, d'une méga-église, ou d'une belle fonction, ou d'un poste dans un leadership. Non, c'est... Aucune promesse ne sont faites. En fait, on ne te promet rien. Hein, c'est prêche la parole et gagne des âmes. Et puis, elle va trouver un entrepôt dans la ville de Denver où elle tient des réunions. Et peu de temps après, en 1934, elle se rend dans un autre endroit relativement similaire, un vieil entrepôt, et ça va devenir le tabernacle du réveil. Donc cet endroit va devenir le lieu où elle va prêcher régulièrement l'évangile avec un trio de 3 musiciennes qui viennent la rejoindre pour animer les temps de célébration.
Toute une équipe de femmes.
Ah, c'est oui. Ça, voilà, c'est des guerrières, elles sont là, et puis elles lâchent pas, on va implanter l'église, on va gagner des âmes. Elles sont impressionnante. En 1935, c'est au tour d'un garage abandonné cette fois-ci. On trouve un vieux garage avec des taches d'huile partout. Donc, ça va servir de tabernacle encore une fois. Mmh. Donc, les lieux les plus insolites vont servir à prêcher l'évangile. Mmh. Quand je discute avec certains pionniers, souvent, je suis stupéfait de voir dans quelles conditions les églises se sont implantées. Parfois, dans des arrière-salles de restaurants. Moi, je me souviens d'une implantation, c'était sur le toit d'un immeuble en Inde. Ah. Donc, on se rendait de Moussouri, dans la ville de Salem. Et puis, sur la route, mon coordinateur me dit, « Franck, je t'ai préparé une réunion dans le village de Moussouri. »
Okay.
Ok, super, génial, on va voir comment ça se passe. Et puis, on arrive dans un vieil immeuble et je cherche l'église. Il n'y a pas d'église au rez-de-chaussée, mais il m'emmène par l'escalier extérieur. On se retrouve sur la toiture de ce vieil immeuble avec des poteaux aux 4 extrémités, puis des tentures pour nous protéger du soleil. Et je vois les gens qui commencent à arriver, et il me dit, voilà, le pasteur de cette communauté à ciel ouvert a 100 membres. Et quand je compte l'auditoire après une demi-heure, je me rends compte qu'il y a au moins 200 personnes. Mm-hmm. Tous les membres de cette communauté ont invité des amis, les ont fait venir, et tout le monde est là. Et là, je prêche la parole, dans cet endroit improbable, comme beaucoup peuvent le vivre, mm-hmm. comme beaucoup l'ont vécu, comme Catherine Kuhlmann a pu le vivre, et comme beaucoup de missionnaires et d'implanteurs d'églises le vivent encore aujourd'hui. Parfois, nous nous retrouvons dans des endroits qui sont insolites. Mm-hmm. Et puis là, je prêche la parole, des boîtes de marche, wow. des miracles commencent à s'opérer. Et ce jour-là, il y a un homme qui est un mendiant, connu de toute la ville, on l'appelle le mendiant de Moussouri, possédé depuis 25 ans. Incapable de travailler parce qu'à chaque fois qu'il voulait travailler, les démons lui commandaient de se meurtrir avec des outils en métal. Mmh. Donc cet homme était réduit à la mendicité et toute sa famille à la pauvreté. Mmh. Et ce jour-là, l'homme vient devant la puissance de Dieu, le visite, le traverse, les démons partent, l'homme tombe à terre, il est délivré des démons. Le lendemain, il va travailler, il n'entendra plus la voix des démons. Mmh. Et le soir suivant, nous avons encore une autre réunion à cet endroit et l'homme va témoigner devant tout le village. Et il va dire, vous me connaissez tous, je suis le mendiant de Moussouri. Et il dit hier, l'homme blanc a prêché la parole et j'ai été délivré des démons. Et aujourd'hui, je suis allé travailler du matin jusqu'au soir et je n'ai plus entendu la voix des démons. Mais il y avait un chant qui montait dans mon cœur et qui glorifiait le nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui m'a libéré. C'est dans ces lieux les plus improbables, c'est dans ces lieux, des fois, qui sont incroyables, que Dieu fait des œuvres extraordinaires. Et dans ce garage abandonné, Eh bien, Dieu suscite un tabernacle. Il faut bien rassembler la foule dans un endroit. C'est la conviction de Catherine Kuhlmann. Il faut que les gens soient rassemblés dans un endroit parce qu'une église doit avoir une adresse. Il faut qu'il y ait un point de rassemblement. Il faut qu'il y ait un point de ralliement. Et dans ces lieux, des réunions pour les enfants sont tenues, mais aussi pour les femmes, des réunions sont organisées. Et c'est à cette époque qu'elle va commencer à exploiter les médias et plus particulièrement les ondes radiophoniques pour y diffuser de façon tout à fait régulière le message de l'Évangile. Et en fait, sa voix va commencer à être connue dans tout le pays par le biais de la radio. Mmh. On se souvient d'Aimé Semple McPherson ? C'était sa tenue vestimentaire, c'était son caractère exubérant. J'ai lu un jour un livre sur les revivalistes où l'auteur avait décrit la bizarrerie des revivalistes. Ils ont toujours des trucs bizarres. Il parlait de George Whitefield qui avait une tête qui était ronde comme une chouquette, comme une bille. Et les gens, quand ils venaient le voir, en fait, ils ne venaient pas pour écouter sa prédication. Ils venaient pour se marrer en le regardant. D'autres venaient voir John Wesley parce que quand il était saisi par le Saint-Esprit, il se mettait à danser et à jerker sur place. Et Dieu se sert de ces revivalistes tellement bizarres pour étendre son Église et contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Alors Catherine va évoluer dans son message. Elle va écouter un évangéliste nommé Phil Keir qui lui prêche la guérison divine et son message va commencer à l'inspirer. Elle va commencer elle-même à bâtir des prédications qui font état de la guérison divine. Mais un coup violent vient frapper son ministère. Oh. On l'a vu avec Aimé Semple McPherson. On a vu aussi avec ce scandale théologique dont elle a été victime, c'est Maria Woodward Setter. Ouais. Il y a chez toutes ces femmes et chez tous les revivalistes des moments difficiles où Satan va chercher un moyen d'atteindre le revivaliste eh bien, à la faille de la cuirasse. Mais Dieu soit béni, il nous faut croire que la justice de Christ est parfaite et que dans le sang précieux de Jésus, nous pouvons être pardonnés de tous nos péchés et même restaurés. Alors, quelle est la femme évangéliste maintenant la plus connue dans tout le pays par la voix radiophonique? Un scandale va éclater, il va éclabousser son ministère. Elle va connaître une histoire d'amour avec un évangéliste texan, Walt Tripp, qui est marié et père de deux enfants. Et là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. L'opposition est violente. Et en 1938, alors qu'il prêche depuis une bonne année dans le tabernacle de Catherine Kuhlmann, l'affaire éclate au grand jour. Et Walt Tripp veut divorcer. Le choc est terrible pour cette assemblée qui refuse de se compromettre. Et là, Catherine Kuhlmann va connaître 6 années de désert. Six années dans sa vie, elle va le payer très cher. Les deux évangélistes doivent quitter l'église et malgré les sévères mises en garde par l'équipe du leadership de cette église, Kuhlmann et Walt Tripp décident tout de même de se marier cette même année. Mais les choses viennent au grand jour, se répandent et en fait, comme on peut le lire dans la parole de Dieu, même la mauvaise réputation, elle nous précède. Et ils vont traverser une période très sombre qui va durer 6 années au terme desquelles eh bien, ce couple va échouer. Elle va décider donc de le quitter. Mais l'appel va brûler dans son cœur. Il y a toujours cet appel au fond d'elle-même. Après ces sombres années où elle va prendre conscience de son égarement, elle va prendre conscience de son erreur, elle va prendre conscience de son péché, elle va s'humilier devant Dieu. Et je dirais presque un peu comme Moïse qui a connu ce temps au désert après avoir aussi tué l'Égyptien. Est-ce qu'on réalise aussi que celui qui a libéré le peuple d'Israël, c'est quelqu'un qui a commis aussi un crime? Et Dieu va le restaurer et l'appel irrésistible du buisson ardent va retentir avec cette voix du milieu du buisson qui va l'appeler eh bien, à libérer tout un peuple. Ainsi, Catherine va s'attacher à cet appel parce qu'au fond d'elle-même, il y a toujours l'appel qui est là. Elle sent cet appel, elle entend cette voix qui l'appelle au plus profond d'elle-même. Alors, elle décide de reprendre la route pour proclamer l'Évangile, mais les rumeurs de cet échec la précèdent à chaque fois. Mais son ministère va vivre un véritable tournant. C'est en 1946, alors qu'elle reçoit une invitation à tenir toute une série de réunions. Des portes vont s'ouvrir sur la radio, sur diverses stations de radio. Et cette médiatisation lui ouvre des portes même pour des réunions de proclamation. Alors au début, elle prêche le message du salut, elle reste attachée au salut exclusivement, mais au fil des réunions, elle constate que des personnes expérimentent la guérison. On a vu ça aussi avec Maria Woodward Setter, où finalement, elle constate, alors qu'elle ne prêche pas la guérison, que des gens viennent la voir et commencent à crier qu'ils sont guéris. Un don de guérison est en train de se manifester. Et en 1947, elle va cette fois-ci prêcher sur la personne du Saint-Esprit. Celui qui l'a consolée, celui qui a pris soin d'elle, celui qui ne l'a pas abandonnée, celui qui l'a relevée pour qu'elle puisse se restaurer et reprendre la marche. Des personnes témoignent, alors qu'elles prêchent sur la personne du Saint-Esprit qui est là présent dans la salle, qu'il a le pouvoir de toucher chacun dans cette salle. Des gens commencent à témoigner de guérison, de tumeurs, des paralytiques commencent à sortir même des chaises roulantes. La puissance de Dieu est à l'œuvre au travers de cette femme qui prêche un évangile de grâce. Elle va demeurer dans la ville de Franklin jusqu'au jour où ce local qu'elle utilisait pour ses réunions ne connaisse un sérieux dommage à la suite d'une terrible tempête qui va endommager le local où elle se trouve. On a l'impression que tous ces revivalistes sont toujours dans le combat, dans le conflit, dans la guerre. Tout s'acharne autour d'eux pour les empêcher aussi d'annoncer la parole de Dieu. Alors elle va s'intéresser à une autre ville, Pittsburgh. Elle avait déjà visité cette ville par le passé. Et en 1943, elle va y prêcher pendant 6 semaines. Six semaines, non-stop, elle va proclamer l'Évangile. Et elle va faire là une rencontre vraiment décisive avec celle qui va devenir sa secrétaire assistante et une amie proche, Maggie Hartner. On pourrait dire aussi en quelque sorte un peu un impresario ou alors une coordinatrice, puisque ça va vraiment être son couteau suisse. C'est elle qui va l'aider, elle va jouer un rôle important dans l'organisation des réunions, elle va l'aider dans le domaine de la logistique. En fait, tout ministère a besoin d'une équipe. Jésus avait même une équipe avec lui. Et les apôtres ont appris à travailler en équipe. Il y a beaucoup trop de ministères qui n'émergent pas parce qu'ils sont trop solitaires. Et j'encourage vraiment tous ceux qui nous écoutent et qui ont un ministère à ne pas vivre en marge de l'Église, mais vraiment à s'imprégner, à s'imbriquer dans la vie d'Église locale afin d'y trouver aussi des hommes et des femmes qui vont devenir leurs équipiers et qui vont pouvoir les aider à répondre à leur appel. Et c'est cette secrétaire qui va l'encourager aussi à tenir des réunions au Carnegie Hall de Pittsburgh. En 1948, le projet donc devient réalité. Des réunions drainent de grands auditoires. Son ministère connaît une phase ascendante incroyable, au point qu'elle est sollicitée pour tenir des réunions partout, dans toutes les villes d'alentour. Elle est demandée de partout parce que le fruit parle pour elle. Et donc, c'est un temps de bénédiction, de moisson dans son ministère. Et bien entendu, il y a de l'opposition, puisqu'on l'accuse de fabriquer des fausses guérisons. Il y a même, à cette époque, une véritable controverse, non seulement sur la guérison divine, mais aussi sur le ministère de la femme. Alors, elle se prend tout plein fouet. Les guérisons ne sont pas vraies. Une femme ne devrait pas prêcher. Donc, elle subit en même temps toutes ces attaques contre son ministère, mais elle s'accroche, elle est fidèle, elle continue à prêcher la parole inlassablement. En 1965, son ministère rayonne jusqu'en Californie. Elle tient toute une série de réunions à Pasadena, dans un grand auditorium, à Los Angeles aussi. Et puis, il y a un producteur qui va l'aider aussi et qui va lui ouvrir des portes pour annoncer l'Évangile et aussi rédiger de nombreux articles dans des journaux connus de l'époque comme People, Christianity Today et même dans le Time. Et puis elle participe à des
émissions de télé. Elle nous a précédés.
C'est ça.
Sur fond vert d'ailleurs. Et EMCI a produit des émissions où Catherine Kuhlmann a été doublée dans Héros de la foi. Et puis on peut regarder tout de suite un extrait.
Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vie, est donné aux croyants pour un but et pour un but seulement. Être utilisé pour la gloire de Dieu. Être utilisé pour le salut des âmes. Être utilisé pour témoigner. Non pour votre plaisir. Non pour la glorification de vous-même. Le Saint-Esprit ne glorifiera qu'une personne, et une seule. Il ne glorifiera pas aucun homme, il ne glorifiera pas, il ne magnifiera pas un être humain. Il glorifiera juste une personne, il magnifiera juste une personne. Et cette unique personne est Jésus. Le Fils unique du Dieu vivant. Peu m'importe ce que votre expérience avec le Saint-Esprit a pu être, quelle que soit la hauteur que vous avez atteinte sur la montagne. Et il y a des expériences de sommet de montagne, des expériences de sommet spirituel qui ne peuvent être décrites par le vocabulaire humain. Parce qu'elles sont spirituelles. Elles sont au-delà de la description humaine. Mais elles sont vécues dans un but, et un but seulement. Pour témoigner. Pour le salut des âmes perdues.
Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas encore Catherine Kuhlmann, voici Catherine Kuhlmann. Elle avait tout un style unique et particulier. Ouais. Et il y a beaucoup de, il y a d'autres émissions des Héros de la Foi qui sont disponibles sur MCI TV. Alors, n'hésitez pas à pouvoir aller écouter ces messages.
Donc, un message simple, comme on a pu l'entendre. Des temps de célébration. Ces réunions étaient très simples. Temps de célébration, proclamation de l'Évangile, prière pour les malades. Et puis, le Saint-Esprit se répandait. Elle axait sur le message de la nouvelle naissance, mais aussi elle libérait des paroles de connaissance et des choses glorieuses se produisaient. Alors, il y a eu toutes sortes de polémiques autour d'elle, avec même des médecins qui l'ont accusée de fausse guérison, mais un autre médecin qui a accepté un jour, sur un plateau de télévision, un débat où lui, il a démontré qu'il y avait d'authentiques guérisons dans son ministère. Mmh. Et puis, elle disait elle-même qu'elle n'avait pas le pouvoir de guérir, et que c'était Jésus qui guérissait au travers d'elle. Et puis, elle va terminer ses jours à la suite de problèmes cardiaques. En 1955, elle souffre de problèmes de cœur et les problèmes ne cessent d'empirer. La pression des médias, les calomnies qui sont de plus en plus fortes. Elle est hospitalisée d'urgence. Elle fut hospitalisée à Tulsa pendant l'été 75 et ensuite à Los Angeles vers la fin de la même année. Et puis, elle mourut le 20 février 1976 après une opération à cœur ouvert. C'était une femme au grand cœur.
Ouais, mais merci Franck et Alexandre pour ce marathon sur Catherine. On aurait pu faire deux émissions sur Catherine, hein, vraiment. Il nous reste juste quelques petites minutes. Est-ce que tu voudrais prier pour terminer cette semaine ?
Amen. Seigneur, merci pour l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, cette onction, elle était sur Catherine Kuhlmann et c'est la même onction que tu veux répandre sur ceux qui nous écoutent maintenant. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un d'hier ou quelqu'un de demain, mais il est permanent. Il a traversé les siècles. Il était à l'origine même de la création. Et nous te louons parce qu'il fut sur Jésus. Il a été revêtu du Saint-Esprit et de force. Et Jésus a été élevé en gloire. Et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été répandu sur l'Église. Viens, Saint-Esprit. C'est notre prière maintenant que tous ceux qui nous écoutent maintenant reçoivent un déversement du Saint-Esprit. Seigneur, viens déverser cette onction de grâce qui va libérer les dons spirituels, qui va libérer aussi ta gloire. Seigneur, merci de qualifier maintenant toutes ceux et celles que tu appelles à proclamer ta parole, quelles que soient les circonstances qu'ils traversent. Seigneur, qu'ils s'attachent à l'appel qu'ils ont reçu et qu'ils sachent que tu veux les équiper et les revêtir pour proclamer cette bonne parole afin que les multitudes soient sauvées de leurs péchés pour te servir, mais que beaucoup aussi soient guéris de leurs maladies, de leurs souffrances, de leurs blessures. Tu pardonnes les injustices que nous avons pu commettre, mais tu nous guéris aussi de toutes celles que nous avons pu subir. Au nom de Jésus, amen.
Amen. Amen. Amen. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été avec nous et puis de nous avoir fait découvrir ces trois femmes. Et on prie que ça puisse vous inspirer. Nous sommes les femmes de cette heure, les femmes de cette génération. Dieu nous appelle. Alors, soyons déterminés à pouvoir le servir, à être ses vases, certes imparfaits, mais des vases où il va pouvoir déverser sa gloire. Soyons humbles, soyons déterminés à rechercher sa présence et à pouvoir faire sa volonté. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.